Donc il me semble que dans la continuité de ce qu'on a pu entendre à la fois hier, dans la bouche de François Gès, des libraires qui étaient présents, et puis aujourd'hui, dans le propos qui n'était pas trop long de François, ça nous semblait important d'entendre des éditeurs qui sont engagés dans les publications de sciences humaines et sociales et philosophie. Alors, je vais juste rappeler, mais plus pour vous que pour l'assistance, hier, dans l'après-midi, les libraires présents, qui étaient donc à la fois Christian Torel, Ombre Blanche, Éric Pitoussi, Passage, et Francis Chaput, du Bal des Ardents, donc des librairies différentes, tous ont dit, aujourd'hui, le chiffre d'affaires augmente grâce aux sciences humaines et sociales, qui ont, pour certains, plus 12%, plus 15%. Alors, je sais, Jérôme, que vous êtes venu avec vos chiffres. Mais, donc, pour évoquer la question du devenir, de comment que devient l'éditeur des sciences humaines et sociales, j'ai demandé à Laurent Bonzon, qui est responsable directeur de l'ARALD, l'agence régionale, vous connaissez, en Rhône-Alpes, d'une part, parce qu'il a un œil plus, il a un œil régional par définition, sur les aides, les soutiens, et aussi la difficulté de l'édition, de cette forme d'édition. On aurait pu choisir d'autres éditeurs, les éditions du Croquant, enfin bon, etc. On avait évoqué d'autres noms. Mais là, il me semble que le format est assez bien. Myriam Montero des éditions Champvallon et Jérôme Millon des éditions Jérôme Millon, que je vais présenter très brièvement, et ensuite je vous laisse la parole. Laurent, tu interviens quand tu veux, puis moi aussi, il me semble que c'est assez facile, et aussi, le cas échéant, de répondre ou de compléter ce que François a pu dire. Les éditions Champvallon, c'est une maison d'édition, vous avez des catalogues là-bas qui est à la fois un fonds de littérature important. Il y a des gens aussi bien que Christian Doumet qui publie dans la revue Secousse, publiée par François Baudart, Christian Garcin, Jean-Benoît Puech que nous attendons toujours et qui ne vient jamais, et Jean-Pierre Martin qui est quand même un vrai succès. Puisqu'il est passé en poche, c'est bien ça. Et par ailleurs, un fonds de sciences humaines et sociales important, puisque vous avez publié par Chia Dagonier, et surtout cette espèce de, comment dire, c'est un peu ce que disait François tout à l'heure, ce vrai risque éditorial qui est l'œuvre, la totalité de Christian Godin. Et donc un auteur que vous suivez très régulièrement. Quant à Jérôme Millon, le catalogue est un catalogue, comment dire, qui est un catalogue qui à la fois mêle une véritable exigence intellectuelle et une permanence. La dernière fois que je vous ai rencontré, c'était dans la cuisine de chez Myriam, et à l'époque vous me disiez, aujourd'hui je mise tout sur le dictionnaire des sciences, des sentences latines et grecques, où ça passe, où ça casse. Et d'une certaine façon, je vous laisse le soin de découvrir le catalogue. Il y a aussi bien Pétrarque que l'abbé Condillac, que Husserl, que Esprit Fléchi, qui avait publié le mémoire sur les grands jours d'Auvergne, et dont vous avez publié Fanatique et insurgé des Vivarais et Cévennes. Donc bref, un catalogue très divers, très, comme on en trouve très peu quand même, vraiment. Et donc, d'une certaine façon, ce dictionnaire des sentences latines et grecques, quand même, puisque vous êtes là, c'est qu'il vous a un peu tiré l'affaire.
Un peu tiré l'affaire, on a vendu 14 000.
Voilà.
Donc,
Ce qui prouve tout de même encore que, en effet, comme le disait François, il y a dans l'édition, il y a toujours, c'est à la fois cette prise de risque et aussi un certain nombre d'ouvrages qui permettent ces prises de risque. Donc, une fois que je vous ai présenté, je vais plutôt vous laisser la parole pour vous demander, vous, aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais aussi à ce que disaient les libraires, comment se partent les sciences humaines et sociales chez vous, comment est-ce que vous vivez l'articulation avec la littérature, on a pu en discuter un petit peu tout à l'heure, voilà. Et puis, Laurent, aussi, comment, sur un plan plus général, toi, tu vois, au moins au niveau régional, mais plus si affinité, le devenir de ces éditions voilà quoi, bon, bref, de ces disciplines en tout cas.
Oui. Moi, je veux bien commencer si vous êtes d'accord. Comme disait Thierry Ermakoff, effectivement, nous publions dès l'origine. Champvallon, c'est une maison qui a été créée en 1980 par mon collègue. C'est une maison qui fonctionne avec deux personnes et qui, dès l'origine, a publié à la fois de la littérature, de la critique littéraire, de la poésie et des sciences humaines. Au début, c'était plutôt de la philo, de l'archéologie industrielle, des textes sur les automates, un petit peu en lien avec l'écomusée du Creusot. Donc, il y avait des chercheurs, il y avait des gens même comme Christian Bobin à l'époque, qui étaient tous au Creusot, qui travaillaient sur la ville, sur les automates, sur l'industrie, sur... voilà, donc c'est parti de là, Champvallon. Ça s'est développé beaucoup par la suite avec des livres sur le paysage, de l'histoire, très vite. Et je dirais que ces deux versants, à la fois littéraire et ce versant de sciences humaines, ont toujours été très présents. Mais pour en venir à notre propos d'aujourd'hui, c'est peut-être que la littérature, au fil des années, est devenue un tout petit peu... On a mis un tout petit bémol sur la littérature, la critique littéraire, hein, depuis... comme on a, c'est une maison 4 ans, un peu plus de 30 ans, Champvallon, on voit bien qu'au début, on publie la critique littéraire, et puis au fil des années, ça se vend de moins en moins, c'est quand même très difficile, il y a de moins en moins d'étudiants en lettres, donc ce sont des domaines vers lesquels on s'est... desquels on ne s'est pas détourné, mais sur lesquels on est beaucoup plus prudent aujourd'hui. On continue de publier de la littérature et de la poésie, mais dans des proportions un tout petit peu moindres que celles des sciences humaines, où là, vraiment, on a vraiment développé des secteurs nouveaux, peut-être un petit peu moins de philo qu'au début, mais certainement beaucoup plus d'histoire. Et je crois que ça a accompagné effectivement une évolution l'évolution éditoriale accompagne aussi une évolution, je crois, de la demande de notre lectorat. On le voit bien, qui se concentre de plus en plus sur des domaines très précis. Et notre choix, en tout cas, c'est un choix qui se fait aussi avec ce que les circonstances amènent. Hein. On ne s'adapte pas. On a des projets éditoriaux, mais on est quand même tout le temps assez attentif à la manière dont ils sont reçus, même si le succès étant souvent pas au rendez-vous. On recompose, on adapte. Je dirais que c'est une sorte d'équilibre subtil entre continuer à faire ce qu'on a envie de faire et puis réfléchir en permanence à comment faire pour que ces sciences humaines qui, on le sait, sont... Enfin, il y a quand même une chute des ventes assez considérable. Hein. Je pense que Jérôme, tu en témoigneras, puisque je crois toi, tu as des chiffres, moi, j'en ai pas. Mais ce que je vois, c'est que à l'échelle de notre maison d'édition, en 30 ans, on peut dire que les ventes en sciences humaines ont certainement chuté d'à peu près la moitié. Nos tirages ont considérablement baissé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vend plus de sciences humaines, ce qui veut dire que... elles se répartissent, je pense, les ventes différemment, elles se diversifient, on a créé des collections, on a essayé de réfléchir à comment continuer ce travail, accompagner nos lecteurs qui en même temps achètent d'autres choses, vont voir ailleurs, diversifient leur centre d'intérêt. Donc voilà, c'est cette espèce d'équilibre un petit peu à trouver tout le temps entre cette production éditoriale qui veut maintenir l'exigence, hein, l'exigence qu'il y a. Nous, on a des livres de fond, comme chez Jérôme Millon. Ce sont vraiment des livres qui ont besoin de temps, des livres au long cours. Et en même temps, ce ne sont pas... notre souci à nous, en tout cas... En histoire, c'est très présent, c'est de ne pas faire des livres trop pointus, trop universitaires, qui ne rencontreront de toute façon pas leur public. Donc de la recherche, oui, mais de la recherche qui soit accessible, des livres d'histoire qui maintiennent tout le corpus nécessaire à la scientificité du domaine, c'est-à-dire des biblios, des notes, du travail d'introduction, de présentation, d'accompagnement du texte, mais en même temps pas trop pointu, pas trop lourd, donc être entre la vulgarisation en histoire, et puis les livres de Chevrin qui se vendent 50 euros et qui sont ultra pointus et qui sont des éditions de thèse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est nécessaire aussi. Mais voilà, nous, on se situe dans cet espace intermédiaire qui fait que, pour terminer là, cette première introduction, qui fait que je crois qu'on a trouvé notre place, en tout cas dans certains domaines. Notre sillon, il est bien marqué. Je crois que notre identité, elle se fait aussi avec ça. C'est-à-dire une image forte aujourd'hui dans ces domaines-là, particulièrement en histoire du paysage aussi. On a créé une collection d'histoire environnementale il y a 2 ans. Voilà. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure et je vais laisser la parole à mon collègue.
Et ami.
Et ami.
Alors, les éditions Jérôme Milon, elles sont. Le premier livre est paru en 85. Moi, j'ai une formation de philosophie et de sociologie, mais à la hauteur de maîtrise, licence, hein, pas plus. J'ai travaillé 3 ans à la librairie université à Grenoble, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était un véritable fou du livre, qui s'appelle Jacques Pruner, qui je rends hommage aujourd'hui, et qui. J'ai découvert le livre comme ça à la librairie. Ça, la chaîne du livre, les retours, etc. Et un jour, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas une maison d'édition? En fait, j'avais l'œil sur certains noms d'éditeurs, comme Gérard Montfort, par exemple, qui a édité des ouvrages classiques. Je voyais même les factures, ça m'intéressait d'un point de vue pratique. Et Jacques Pruner me dit, bah oui, il n'y a qu'à rééditer l'autobiographie de la possédée de Loudun. Moi, j'ignorais même l'histoire de la possession de Loudun. C'était sous Richelieu. L'histoire d'un couvent qui a été ensorcelé, ça avait été édité par des élèves de Charcot, le psychiatre, qui a noté par 2 de ses élèves, Légué et Latourette, et qui avait, dès qu'il y avait un phénomène physique curieux comme les stigmates, il mettait une note en bas de page sur l'hystérie. Et j'ai trouvé son idée particulièrement géniale, parce que c'était au carrefour entre l'histoire de la religion, l'histoire de la psychiatrie. C'était aussi très spectaculaire, puisqu'elle parle de la possession des diables qu'elle a dans le corps, etc. Donc moi, j'y connaissais rien. C'était pas une volonté qui me travaillait depuis longtemps de faire une maison d'édition. Donc voilà, j'ai rencontré Jacques m'a présenté à La Pensée Sauvage, à Grenoble, qui m'a montré comment ça marchait. Gérard Bobillier des éditions de Verdier qui m'a également aidé, et on a été pris en distribution par Distique, qui était à l'époque une très bonne maison de distribution mais qui ne faisait pas la diffusion. Je pense que tout le monde fait la différence. Et donc moi, je partais avec ma petite voiture faire le tour de France, proposer aux libraires des ouvrages un peu curieux comme cet Abbé Boileau, Le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens. Alors quand on arrivait comme ça à la procure de je ne sais quel pays, ils me regardaient avec des yeux tout ronds disant où venez-vous avec ça. Donc plaisante comme ça, je veux dire, il n'y avait pas de volonté de ma part, c'était pourquoi pas faire de l'édition, etc. Bon, Jacques Pruner m'a donné confiance en moi-même, j'ai eu la chance d'être pris par De Fréminville qui dirigeait Distique, qui était psychiatre d'origine, donc l'histoire de Charcot et des légués Latourette, ça lui a bien plu, et ce que je veux dire par là, c'est que sans distribution, pas d'édition. On en reviendra là-dessus, parce que... Moi, j'étais pas là dans les débats, mais il y a des choses que j'aimerais dire plus tard sur qu'est-ce que c'est que l'édition. Pour moi, c'est une histoire d'amour, hein. C'est pas autrement, hein. C'est aimer les textes, aimer être passeur de textes. C'est pas simplement les chiffres du bénéfice ou des pertes, etc. Donc, la maison d'édition a démarré comme ça. Gérard Bobillier des éditions Verdier me donne un jour un manuscrit à Paris. C'était un texte de Marc Richir auquel je ne comprenais absolument rien, que j'ai regardé à l'hôtel, et puis par contre j'ai vu que c'était très solide du point de vue de la construction du texte, etc. Et Marc Richir est depuis devenu directeur de collection chez nous, et on a 85 titres en phénoménologie, beaucoup de traductions de Husserl, de Fink, Patochka, etc. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est quand je parle d'histoire d'amour, c'est que ça s'est fait comme ça. La fibre de sympathie au sein de la maison d'édition est extrêmement présente, sympathie par les libraires que je rencontrais à l'époque des tournées, sympathie avec les directeurs de collection qui sont les épuisettes qualitatives des textes qu'on publie, parce que derrière Jérôme Milon, il n'y a pas Pic de la Mirandole. Hein. Moi, je ne maîtrise pas les traductions de Husserl, je ne maîtrise pas le paléolithique supérieur en Pologne, parce qu'on a même eu une collection sur le paléolithique. Je ne maîtrise pas la mystique du XVIIe, comme le Brémond, par exemple, histoire littéraire du sentiment religieux. Donc, je rends hommage aux directeurs de collection qui tous font un travail, toujours avec une fibre amicale, et gracieusement au sein des éditions, et on travaille en collaboration pour les programmes à venir, en disant ben voilà, moi j'ai telle thèse que je trouve intéressante, qu'est-ce que vous en pensez. Je rends hommage aussi à Marie-Claude, ma compagne, qui sans elle je pense que la maison d'édition aurait disparu depuis longtemps, parce qu'elle a un point de vue plus rationnel que le mien sur la gestion de certains projets, et j'aurais parfois dû l'écouter d'ailleurs. Bon, maintenant, nous, on a près de 30 ans. Moi, je tiens, c'est vrai, des comptes livre par livre depuis bientôt 30 ans. Ce qu'on voit, c'est que plusieurs choses. Moi, je constate que quand j'étais étudiant, c'était un vrai bonheur de se faire un embryon de bibliothèque. On achetait des puffs sup, je ne sais pas si ça vous parle, qui valaient une fortune à l'époque. On achetait ça au tonneau de Diogène d'occasion à Grenoble. Mais on était heureux d'avoir du papier sous les yeux et pas des écrans. C'est la catastrophe, les écrans. Tout le monde ne rêve plus que d'avoir un écran plat, un iPad et de surfer. Et je trouve ça absolument détestable, parce que pour moi, c'est une histoire d'amour. Moi, quand je me prends chez moi, je vois des livres dans ma bibliothèque, ils sont en papier, il y en a un qui est corné, je me souviens pourquoi. C'est sûr, corner un iPad, c'est embêtant. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça me rappelle, si vous voulez, la passion que j'ai eue dans la lecture, elle est hors de moi, elle est dans ma bibliothèque. C'est pas sur un écran qui est mort dès qu'il est éteint. Là, il vit toujours, le livre. Quand je le croise, je suis ému de le rencontrer, ça doit être réciproque. Et aujourd'hui, on surfe, je veux dire, c'est, je ne suis pas du tout sensible au PDF, je n'ai numérisé aucun de mes livres, je ne le ferai pas.
Contrairement à nous.
Voilà, donc peut-être on peut avoir un débat là-dessus, mais je pense que l'ambition d'un étudiant aujourd'hui, c'est plus d'avoir une bibliothèque, je pense, c'est de pouvoir... Et puis je trouve qu'aussi tous ces PDF, tout ça, bien sûr que j'anticipe peut-être sur la suite... Hein. Mais c'est vrai que c'est pratique, les hyperliens, on va de gauche à droite, mais c'est encore du surf, je ne sais pas comment dire. Et donc, on a vu, au fur et à mesure de l'installation d'Internet, baisser, c'est vrai, l'achat du livre papier. Mais tout est fait pour ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des réponses sur le web à beaucoup de questions qui sont développées dans nos propres livres. Et c'est plus une ambition, je pense, d'avoir une bibliothèque papier chez soi. Moi, je le déplore. Voilà, donc.
En même temps, ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est que ce que disent les libraires, c'est qu'ils. En tout cas, les trois libraires qui étaient là hier, c'est qu'ils tiennent avec les sciences humaines. Donc, c'est bien qu'il y a aussi encore un public pour ça. Mmh. Et si on est là aujourd'hui, Jérôme, c'est
oui,
bien
oui,
aussi.
Oui.
Et oui.
Pour dire que
oui.
Ça marche encore.
Donc, il y a à la fois cette chute, effectivement, des ventes. C'est beaucoup plus difficile. Et en même temps, comment faire pour continuer de proposer ce travail? Quand on publie un livre de philo, enfin, nous, quand on publie Mathématiques et Existence, par exemple, on sait très bien à quoi on s'attend. Mmh. On n'a pas. T'es d'accord avec ça?
Je suis d'accord, oui.
Hein, on sait à peu près qu'on aura un lectorat qui sera au maximum de 400 personnes.
Voilà, donc... Voilà.
Aujourd'hui, des ventes de 400, mais je pense que François Gèze hier, enfin, je ne sais pas s'il vous a donné des chiffres, mais nous, quand on en parle avec lui, on n'est pas... Enfin, on est tous d'accord, petit, grand. Hein, il y a un livre d'histoire pointue aujourd'hui ou de philo, c'est 400-500 la première année.
Alors, si je peux reprendre la parole, juste pour dire quelque chose, c'est vrai, je suis d'accord. Avant, d'un point de vue technique, au niveau de l'imprimerie, on travaillait en offset. Vous allez voir où je veux en venir. On travaillait en offset, c'est-à-dire que tirer en dessous de 600, ça ne valait pas la peine. Aujourd'hui, on a des espérances de vente qui sont des fois même de 150, 200. On pourra après parler, est-ce que c'est nécessaire de publier un livre qui va se vendre à 200 exemplaires. Mais on devait en faire 600, 700. Moi, j'ai un plein entrepôt de bouquins dont j'ai quelques siècles de vente devant moi. Hein, des siècles, même parfois des millénaires. Même. Mais donc, voilà, on en était là. On prenait un risque. C'est vrai, on prenait un risque. Aujourd'hui, grâce au numérique... l'impression numérique, hein, j'entends, l'imprimerie, hein, qui a fait d'énormes progrès en 10 ans. Maintenant, il y a des colles PUE pures, je ne sais pas quoi, qui sont parfaites. Hein. Ce n'est pas comme les vieux 10-18 qui explosaient comme ça quand on les ouvrait. Maintenant, on peut vraiment faire du Canada Dry, c'est-à-dire un livre. Ça ressemble à un livre, sauf que c'est plus de l'encre, c'est de la poudre, c'est de la photocopie, mais c'est vraiment un livre, c'est la même chose. Et on peut en tirer 10, on peut en tirer 50. Et ça modifie, nous, nos perspectives économiques de tirage. Tout à fait. Le drame, c'est qu'avant, vous aviez de la publicité dans les journaux qui disait, la pensée universelle, l'Académie européenne du livre, faites un livre, écrivez vos mémoires, donc n'importe, tout le monde envoyait des manuscrits, puisque tout le monde écrit, hein. Tout le monde envoyait des manuscrits à la pensée universelle, qui vous faisait un contrat qui disait, vous allez être disponible dans toutes les librairies, etc. On va vous demander quelques dizaines de milliers de francs à l'époque pour publier le bouquin, donc c'était une arnaque totale, puisque disponible, ça ne veut pas dire qu'il y a des diffuseurs. Il n'y a pas des représentants qui proposent les livres. Il n'y a personne. Le livre ne sortait jamais des caves de la pensée universelle, ou très très rarement. Et vous-même achetiez vos livres que vous aviez déjà payés, puisque vous aviez payé l'imprimerie. Donc ça a été dénoncé par plein de gens. C'est ce qu'on appelle l'édition à compte d'auteur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le livre, c'est une suite d'épuisettes qualitatives. C'est que des choix, c'est que des filtres. L'éditeur, il filtre. Par l'intermédiaire des directeurs de collection, qui filtre ? Le distributeur, il filtre qui il va diffuser. Je veux dire, Amonia Mundi qui nous diffuse tous les deux, il ne va pas prendre n'importe qui. C'est un filtre. Le libraire, c'est un filtre. Le responsable du rayon, c'est un filtre, etc. Mais quand vous faites un livre fait en numérique à 10 exemplaires à compte d'auteur et un livre qui a été fait par un éditeur avec une suite de gens qui se sont penchés quand même sur le texte, ben vous ne voyez pas la différence maintenant, au niveau physique, au niveau physique du livre.
Technique.
Et, au salon du livre de Paris, en face de la région Rhône-Alpes, il y avait 10 mètres de gens et 10 livres, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce n'est que de l'auto-édition. Alors évidemment, on va les provoquer un peu, dites donc que vous avez des représentants. Alors là, ils comprennent tout de suite qu'on est éditeur et qu'on a compris l'astuce. Donc ils prennent tout, ils impriment tout, mais on dirait des livres.
Alors, c'est bien parce que les moyens techniques permettent à tout le monde de faire des livres qu'aujourd'hui le sens du travail qu'on fait est décuplé.
Décuplé, voilà.
Donc c'est bien là-dessus qu'on a à se battre. C'est bien sur l'image et sur la qualité et l'exigence de ce qu'on maintient.
Voilà. Hein,
en sinon,
gros, c'est ce que disait François Gès hier, c'est que pour pallier la baisse des ventes, c'est l'impression numérique.
Voilà.
Fait, la possibilité, voire même d'imprimer quasi à l'unité.
Alors lui, François, il pense que l'avenir, c'est l'impression à l'unité, print on, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais enfin, ouais, voilà. Ce que fait déjà, je crois, Payot, il me semble. Enfin, moi, j'ai commandé le journal de clinique de Ferenzi, par exemple. Et ben, quand on le commande aujourd'hui, il coûte 35€ chez Payot. Et le libraire le commande. J'ai commandé à l'université Lyon 2, là-bas, chez le petit libraire. Il l'a commandé. Il a été imprimé en un exemplaire. Ça coûte 35€. C'est un tout petit peu...
Une expérience, je te rends là. Moi, je voulais rééditer Le satanisme et la magie de Jules Bois. Et en fait, je vois sur Internet à 15€. Alors, je dis, c'est super, neuf. Je ne comprenais rien du tout. C'est un livre du 19e. Donc, je le commande, je le reçois des États-Unis. En fait, c'est du Google. C'est du facsimilé Google, scanné en OCR, ça vous parle, l'OCR, la lecture optique de caractère, mais sans relecture. C'est-à-dire que le bouquin, vous le prenez, vous le jetez.
Non, mais là, ce dont je parle, c'est un livre tout à fait normal, alors qu'il n'est pas... Effectivement, on voit des différences, quand on regarde bien du point de vue de la qualité, c'est pas tout à fait pareil qu'un livre cousu. Mais néanmoins, ce que dit François Gès, c'est qu'on va vers ça. On va vers ça. Ce qui n'est pas faux, parce que le gros problème, enfin, en tout cas pour des maisons comme nous, comme pour les gros, remarque, après tout, je crois que c'est la même chose finalement. Les échelles sont différentes, mais c'est la même chose. Le gros problème pour nous, c'est de, quand on a un catalogue de 600 ou 650 titres, ça commence à faire des stocks pléthoriques. Comme disait Jérôme tout à l'heure, au début, on tire, je ne sais pas, il y a 20 ans, on tirait à 3 000 exemplaires un livre. Hein, pour les frais fixes, il ne fallait pas tirer trop bas. On avait peur d'en manquer. C'était comme les confitures dans la cave, hein, les livres. Moi, j'ai conservé des réflexes de ménagère. Alors, avec mon collègue, avec Patrick, on est sans arrêt en train de se frictionner parce que moi, j'ai toujours peur de manquer. Donc, je veux des confitures dans la cave. Donc, encore des réflexes d'avant, on tirait à 3000, et puis on en avait pour 30 ans, 40 ans, on travaillait. Seulement, les années passent, le catalogue augmente, les caves sont pleines, les stocks sont pleins, on commence à payer partout pour faire stocker des tant de centimes par exemplaire, à l'unité, hein. Après, il faut les déplacer, donc les transporteurs sont hors de prix. Donc ça devient, on rentre dans un système industriel. Hein. Au début, on est tout petit, on gère ça soi-même. Puis ça, ben voilà, ça enfle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous coûte plus cher de garder des livres maintenant que de les réimprimer. Donc on s'oriente, on est dans une vraie discussion. Je crois qu'en sciences, particulièrement les éditeurs de sciences humaines, on est dans des vraies préoccupations maintenant de cuisine, c'est-à-dire quel imprimeur va nous permettre de pouvoir réimprimer ce livre de philo, on va le faire, on va plus le faire à 1000, on va plus tirer à 1600 exemplaires. On va commencer à 800. Et puis, si ça marche un tout petit peu, si Harmonia Mundi nous en met un tout petit peu plus que prévu en place, on retirera 200 ou 300 derrière. Voilà, on ajuste. Les moyens techniques vont nous permettre, enfin, en tout cas, nous, on est vraiment en réflexion en ce moment avec ça. Ça nous permet, finalement, de limiter les risques et donc de continuer, finalement, de faire ça. Ben, ce livre, finalement, peut-être que si je ne pouvais pas le faire à 500, je ne le prendrais pas. Or, les moyens techniques vont nous permettre de limiter les risques. On va se débrouiller, on va chercher des financements dans un labo de recherche. Il faut quand même le dire, hein, parce que ça aussi, pour éditer des livres comme ça, il faut qu'on trouve des sous. C'est pas la mise en place et les ventes de l'année qui vont nous permettre de... Donc, on construit comme ça un petit plan financier pour chaque livre, on cherche... tel labo dans telle université pourra nous donner un petit peu de sous, tel dossier auprès de la région Rhône-Alpes va nous rapporter aussi quelque chose, ou auprès du CNL, voilà, on construit comme ça. Et je crois qu'on est plus que jamais, enfin moi il me semble, qu'on est plus que jamais attentif à faire que toutes ces petites choses, toutes ces petites précautions qu'on prend vont nous permettre de continuer aujourd'hui, là, en 2013, d'éditer des livres qui, effectivement, n'ont pas un lectorat considérable, encore que, il faut quand même qu'on arrête de faire aussi du misérabilisme. Quand toi, tu disais tout à l'heure, votre dictionnaire des sentences latines, c'est 14 000 exemplaires, c'est génial. Nous, on ressort des choses, il y a des choses patrimoniales, par exemple, qu'on ne trouve plus. On a fait, il y a 2 ou 3 ans, les oisivetés de Vauban. Ce sont les carnets de Vauban qui étaient tous les carnets dans lesquels Vauban consignait toutes ses observations quand il se déplaçait en calèche dans tout le royaume. Toutes ses observations sur l'élevage des truies, sur la construction des digues, sur la monnaie. Enfin, c'était 19 carnets extrêmement pointus, intéressants, passionnants. C'était plus disponible, bizarrement. Il y avait les éditions du 19e, il n'y avait plus rien. On fait l'intégralité des carnets de Vauban. Ça, c'est un projet éditorial lourd qui nous prend 2 ou 3 ans de travail avec une équipe de 16 ou 18 historiens qui préfacent. On retravaille la langue, on fait des notes. Enfin, c'est un vrai. On fait un coffret. Bon, tout ça, ça a l'air. Effectivement, c'est un investissement important, hein, en termes éditorial et financier. On trouve des aides à la région, au CNL, je ne sais plus. Et on arrive à sortir ce gros volume de 1800 pages. On peut se dire aujourd'hui, on est à 4000. Absolument. On est à 4000. C'est un livre qui se vend tous les mois. Et c'est ça notre force à nous. Notre force à nous, c'est qu'on a du fond et que ça... On est assis sur notre fond.
Tu fais bien de pointer ça, parce que nous, on a 400 titres au catalogue, on vit sur 20 livres. Hein. Peut-être même pas. Peut-être 10 ou 15 livres.
Oh, quand même.
Ah, ben moi... ah non, ceux qui se vendent à 20 ou 30 par mois, il y en a, nous, on n'en a pas plus de 10 sur 400 après 30 ans de boulot.
Laurent, on peut laisser parler, Laurent.
Non, vas-y, du coup. Justement, ouais, moi je suis content de les entendre parler parce que à chaque fois qu'on se voit, on parle cuisine et justement technique, etc. Et c'est vrai que finalement, j'ai rarement l'occasion de vous entendre parler d'une part de l'histoire de la maison et puis sur les fonctionnements, je le sais mieux. C'est vrai que je dis juste un mot sur la RAL puisqu'on est déjà au cœur du débat là, donc c'est pas intéressant de que je vous raconte en long et en large ce qu'on fait. L'agence, donc je vais quand même dire le nom en entier parce que Thierry n'a pas été.
Rhône-Alpes pour le livre et la documentation.
Voilà, Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, donc qui est une structure régionale qui travaille, donc qui initie et met en œuvre la politique de l'État, de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et de la région Rhône-Alpes dans le domaine du livre et de la lecture. Donc on intervient à la fois dans l'aspect observation du livre, de l'économie du livre, dans l'aspect soutien et aide, hein, qu'on matérialise et qu'on fait fonctionner pour les éditeurs, mais aussi pour les libraires et les écrivains, et dans le domaine également de la bibliothèque à travers l'animation du réseau, notamment des bibliothèques départementales. Et puis sur la prospective, donc qu'on couple à l'observation pour analyser un peu les champs d'intervention à venir. Voilà, donc j'avais quelque chose que je voulais absolument dire et que j'ai oublié.
Ah ben ça y est, voilà.
C'est bien. Donc non, je
par rapport à ce qu'on disait.
Oui, par rapport à ce que vous disiez. Oui, donc nous on intervient évidemment sur votre activité. Dans deux cadres, je dirais, en gros, c'est-à-dire ce plan de financement dont tu parlais, c'est-à-dire que l'ARALD instruit des demandes d'aide à la publication d'ouvrages, hein, des éditeurs, et puis dans l'aspect promotion, puisque on s'occupe également de permettre aux éditeurs d'être présents sur un certain nombre d'événements en France et à l'étranger, type le Salon du Livre de Paris ou l'ensemble des salons sur lesquels les salons thématiques, les salons spécialisés sur lesquels les éditeurs veulent se rendre.
Mais qu'est-ce que par rapport à d'autres, en fait la question que j'aimerais développer un peu, c'est d'autres éditeurs qui publient les sciences humaines et sociales, entre autres Le Croquant, mais d'autres que tu connais mieux que moi, leur situation est comment aujourd'hui? Quels choix font-ils?
Je crois que c'est pour ça que c'est assez intéressant d'entendre Jérôme Mignon et Myriam Montero sur Champvallon. C'est à la fois deux maisons extrêmement singulières et qui ont peu de choses de commun dans leur catalogue, même dans le domaine des sciences humaines, et en même temps on a bien vu que effectivement il y a des problématiques communes. On les retrouve tout à fait pour l'ensemble des maisons de la région, qui sont effectivement extrêmement présentes dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Hein. C'est vrai que le vivier de l'édition en Rhône-Alpes est particulièrement fort sur le domaine de l'édition, des sciences humaines et des sciences sociales, également du patrimoine. Donc ça veut dire que cette situation paradoxale d'intérêt pour une, je sais pas l'exemple que prenait Myriam, ou le fait que Jérôme ait sauvé une année et peut-être plus de sa maison sur un dictionnaire des citations latines, c'est pas une banalité, c'est assez surprenant, hein. Donc c'est vrai je trouve qu'on observe un paradoxe entre un intérêt certain et qu'on voit grandissant pour le domaine des sciences humaines, notamment de la philosophie, si on pense à toute la tous les mouvements liés au café philo. J'entendais il y a peu de temps que le plus gros podcast de France Culture, ce sont les nouveaux chemins de la connaissance, plusieurs millions de podcasts par an. Voilà, donc il y a cet aspect-là, il y a un intérêt réel, et puis il y a, je pense, il y a aussi tout le cheminement accompli par les éditeurs, ce que racontait Myriam était intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire comment les éditeurs aujourd'hui arrivent à se positionner face à la fois à cet intérêt et en même temps à une problématique de baisse des tirages, de baisse d'achat de livres. Hein. On est dans un marché en récession. Ça, clairement, je regardais au niveau national, je crois que le marché des sciences humaines et sociales représente 4% du chiffre d'affaires de l'édition. Donc c'est très très peu, hein. c'est vraiment c'est une niche et c'est vrai que dans les régions on assiste, on aide et on soutient et on accompagne des éditeurs qui sont effectivement sur des économies de niche, hein, qui sont sur des...
Mais quand tu dis... effectivement, je pense que du point de vue financier, on ne pèse rien. En même temps, je crois que la valeur, elle est vraiment dans l'image et dans le sillon qu'on a creusé. Hein. Et c'est ça qui fait notre force, d'une certaine façon. On est à la fois extrêmement fragile, on ne pèse rien économiquement. Et en même temps, quand on va... par exemple, aux rencontres du livre d'histoire de Blois, hein, on y est tous les deux, c'est pour ça que je prends cet exemple. Enfin, remarque, on va partout, on est toujours en. je sais pas pourquoi je pense celui-là, on se suit un petit peu, ça fait.
Ça fait longtemps.
Toutes ces années, on est toujours. Mignon Chamballon, c'est toujours à côté. Quand on va aux rencontres du livre d'histoire de Blois, je le dis vraiment sans. Pas du tout pour s'auto-congratuler, mais. Ce sont des choses qu'on entend. Les rencontres du livre d'histoire de Blois, c'est vraiment le lieu de rencontre le plus important, hein, pour les professionnels, en tout cas pour tous les historiens, et pas que. Il y a énormément d'enseignants, on voit beaucoup de bibliothécaires aussi. Qu'est-ce qu'on nous renvoie comme image? C'est qu'on a vraiment une place très importante dans le paysage éditorial, qui est complètement disproportionnée par rapport à notre taille. Et quand on dit « Ah ben non, moi quand on me dit « Ah mais Chamballon », je dis « Ben vous savez, on est deux, enfin on est tout petit ». Et ici, les gens qui connaissent nos livres depuis très longtemps en histoire, ils s'imaginent qu'on est une grosse structure, qu'on a un directeur de collection. Alors on en a deux qui sont très bons, mais que deux, hein, et qui ne sont pas très peu payés. Voilà, donc il y a une espèce de disproportion comme ça entre le poids économique qu'on n'a pas et quand même, je pense qu'on peut le dire, ce travail qui, au bout de 30 ans, normalement, porte ses fruits maintenant parce que...
On ne fait pas le chiffre d'affaires d'une petite boulangerie de quartier.
Non, mais en même temps, on est toujours là, 30 ans plus tard, dans un contexte de crise qui est quand même... important, et on en a vu des collègues qui quand même ont lâché en cours, hein, avec des très bons catalogues, hein. Donc c'est bien aussi qu'on a su on a eu des aides, on a des aides, on peut pas vivre sans aide, faut quand même qu'on le dise aussi, on peut pas publier des livres comme ça aujourd'hui, ce sont des livres qui ont besoin d'être aidés, mais néanmoins c'est aussi parce qu'on a peut-être cette souplesse d'être des toutes petites structures, qu'on s'adapte puis qu'on cherche tout le temps des trucs. Enfin, on cherche des...
Est-ce que c'est une illustration du découplage dont tu parlais, par exemple? Ou pas?
Est-ce que vous avez des équivalents, enfin, dans les grandes maisons, typiquement d'histoire?
Alors, pour l'histoire...
Des gens qui sont un peu vos... qui font le même métier que vous, enfin, avec la même manière de...
Au sein des grandes maisons, vous voulez dire?
Oui.
Je ne sais pas, par exemple, en histoire, sous le cas précis de l'histoire, moi, ce que je vois, c'est que nous, si on arrive à vraiment se positionner maintenant de manière très importante dans ce domaine, c'est parce qu'on prend une place qu'ont déserté les grosses maisons. Quand on a publié Les guerriers de Dieu de Denis Crouzet, qui est une grande thèse sur les guerres de religion, c'était il y a fort longtemps, hein, un peu au moins 15 ans, Gallimard la voulait, cette thèse, mais ne voulait pas, voulait sabrer les notes, enfin une grande partie des notes. À l'époque, Denis Crouzet a refusé, ce qui était quand même assez courageux, parce que c'était un jeune historien, enfin il était en poste à Lyon, mais je ne sais même pas s'il était professeur encore. Enfin bref, en tout cas, nous on a accepté de prendre ce travail qui était considérable, c'est un peu exceptionnel, hein, c'est plus gros que ce qu'on publie d'habitude, hein. Mais néanmoins, parce que là, il y avait vraiment un appareil critique extrêmement riche et on savait aussi que ce serait un livre incontournable sur cette période. Eh bien, les historiens nous renvoient que maintenant, c'est pas possible chez Gallimard ou chez Fayard, dans les meilleures collections d'histoire, de conserver un appareil critique digne de ce nom. Et encore une fois, je dis bien, pas un appareil de thèse, hein. C'est pas 2000 notes, enfin, c'est 6000 notes. Mais un bon appareil critique qui fait que c'est un livre de recherche et que c'est pas un livre de vulgarisation. Donc, si on se situe, voilà, c'est un créneau qui fait que peut-être que dans les grosses maisons, on lâche des choses. Et puis, et que c'est à nous aussi de tenir la barre de l'exigence à ce niveau-là.
Nous, on a des frais qui sont extrêmement réduits par rapport à une maison d'édition Quand oui. je vois, enfin, de chez nous, c'est vraiment le minimum du minimum.
Ah, les frais, tu veux dire les frais
de fonctionnement. Les salaires sont lamentables. Je veux dire, j'ai la chance, moi, d'avoir un entrepôt, donc je ne paye pas de stockage. On a des bureaux à Grenoble qui nous...
Oui, oui.
Voilà, mais ça s'arrête là, on n'a rien. Hein. Je veux dire, nous, en plus... Si vous payez un peu les directeurs de collection ou pas, ils sont extrêmement contents de dire...
Mais vous avez beaucoup de morts dans votre catalogue. L'avantage,
on aime beaucoup les morts.
Ils ont plus de morts.
On va revenir.
Nous, on a beaucoup de vivants, alors ça nous coûte cher.
Non, mais on a plein
on demande des efforts aux auteurs aussi, hein, sur les droits d'auteur. On peut pas, on peut pas proposer des avaloirs. Voilà. Mais les auteurs, c'est la satisfaction, je dirais quand même, c'est que il y a, enfin que les auteurs choisissent de venir chez nous quand
Bien
même.
Sûr.
Et ça, je trouve que c'est peut-être notre récompense. Hein, on aimerait bien un peu plus de sous de temps en temps, mais il y a quand même des auteurs qui ont... Moi, récemment, on a publié, par exemple, une universitaire lyonnaise, Martine Boyer-Weinmann. On a publié une anthropologie littéraire de l'âge. Ça s'appelle « Vieillir, dit-elle ». C'est un très beau livre sur l'âge et sur la manière dont la question de l'âge est travaillée dans l'œuvre littéraire féminine du XXe. Donc ça part de Beauvoir, l'œuvre un peu Princeps, il y avait Georges Sand aussi, et puis jusqu'à Annie Ernaux, voilà. Comment c'est travaillé du point de vue de l'auteur, l'auteur femme, mais comment c'est travaillé aussi thématiquement dans l'œuvre, comment ça innerve l'œuvre. Ce livre-là, il était accepté chez Odile Jacob. Hein ? Bah, Odile Jacob, c'est pas n'importe qui en matière de... Bon, eh bien, Martine Boyer, je peux le dire publiquement parce que, voilà, elle me l'a dit, elle nous l'a confié après coup, mais elle a choisi de rester chez nous. On avait publié un livre d'elle, beaucoup plus pointu, beaucoup plus universitaire que celui-ci. Eh bien, néanmoins, elle a choisi de rester chez nous. Elle nous a fait confiance, c'est quand même une sacrée... Alors, du coup, ça nous met un peu la pression après, hein, faut qu'on assure derrière, pourquoi elle nous fait confiance? Elle sait bien... On ne fera pas le chiffre, sans doute, d'Odile Jacob, mais il y a une question de contexte, de catalogue. Oui. Et elle a envie, elle a une image, elle a une image de... Je crois que le contexte, ça compte pour les auteurs.
Oui. C'est-à-dire,
être telle collection qui est repérée comme telle, et, par son directeur de collection, tout le reste du travail, finalement, bénéficie...
Et cela malgré effectivement une baisse de la surface médiatique un peu hein, des maisons d'édition. Enfin pour vous peut-être pas forcément, mais globalement on le constate en région. Alors peut-être pas spécifiquement pour les sciences humaines, également pour la littérature.
Il y a
de moins en moins de moins en moins de supports littéraires. De presse pour les maisons d'édition régionales. D'une part, au niveau de la région elle-même déjà, c'est-à-dire que si vous regardez en Rhône-Alpes la partie livre qu'il existe dans la presse quotidienne régionale ou dans les magazines régionaux,
elle presse régionale parce qu'on est moins défendu dans la presse régionale qu'ailleurs. Moi, j'ai plus d'articles dans Ouest-France que dans les journaux locaux. Quand on publie dans une région, on n'intéresse pas les gens de la région en général, il faut le dire.
Il faut que tu égorges ou que tu pousses un petit vélo dans le métro, là il y aura de la...
C'est quand même étonnant.
Je fais une remarque sur la littérature et les sciences humaines. Je dirais quelque chose. Nous, les éditions Milon, on est peut-être un peu plus dans l'érudition que Champvallon. Mmh. Ce sont des livres vraiment, je pense à notre collection d'antiquité gréco-latine,
c'est
vraiment
des
travaux de recherche. Et les gens ils nous disent, oulala, qu'est-ce que vous êtes courageux d'être dans ces domaines-là. Et moi, je voudrais montrer que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand vous publiez, par exemple, une traduction de Husserl, le phénoménologue allemand, vous savez exactement à qui vous vous adressez, vous savez exactement combien vous allez en vendre.
Il ne faut
pas délirer, on ne va pas en tirer 3000, si on en fait 1000, c'est déjà bien, aujourd'hui c'est peut-être même moins que ça. Donc on adapte parfaitement bien ce qu'on pense être la demande techniquement à l'impression, donc on ne prend pas un gros risque. On fait de la littérature, nous on n'en fait pas. Mais si on faisait de la littérature,
nous
on en fait. Voilà, donc on arrive, on est devant les 20 représentants Harmonia Mundi, on va leur dire ô combien c'est un livre important, génial, et combien il faut le soutenir. Ils vont vous croire, ils vont nous croire. Et ils vont aller porter la bonne parole au libraire avec autant d'enthousiasme en disant c'est génial. Alors, ou Searle, c'est 0 ou 1. Chauve Chevrin, c'est 3, quoi. À peu près, la mise en place, quoi. Chevrin, et peut-être 2-3 endroits, ça va être 2 ou 3.
Par librairie, dit.
Par librairie. Mais si vous avez, si le représentant en disant, ben ça, c'est un roman vraiment excellent, c'est parfait, bon, le libraire, au lieu d'en prendre 2, il dit, ben allez, je suis une petite pile de 6. D'accord.
Alors là, c'est fini, hein, 4, ce temps-là.
4. Allez, j'y connais rien, je peux pas dire. Mais il fait une petite pile, il va faire un effort. Donc, la mise en place, au lieu d'être de 212 pour un Husserl ou de 300, si jamais on a un petit peu poussé le bouchon, il risque d'être de 800 ou de 1000 exemplaires. Donc l'éditeur de littérature va se dire, bah, il faut que j'ai un peu de stock, donc je vais en tirer 2000. Le bouquin est sur la table, il n'y a pas un article de presse, le libraire peut-être ne l'a pas lu, ne l'a pas défendu, et puis on peut le comprendre avec tout ce qui se publie.
Il y en a 600.
Résultat des courses, Chamballon ou un autre a tiré à 2000, 2005, 3000. Et puis il va en revenir sur les 1500 mis en place, il peut en revenir 1300, quoi. Mmh. Donc au final, vous avez vendu 200 bouquins, vous en avez imprimé 3000. Donc le risque, à mon avis, le risque de faire de la littérature aujourd'hui
est plus grand.
Est bien plus grand que de faire de l'antiquité gréco-latine ou de la phénoménologie ou de la mystique du 17e. Parce que là, vous savez, les gens l'ignorent. Donc ils sont toujours en train de dire, oh là là, Milo, qu'est-ce que vous prenez comme risque? Ou Chamballon, c'est formidable. J'ai envie de leur dire, bah, s'ils savaient, non, on en prend beaucoup moins, parce qu'en plus, la littérature ne sera pas aidée ni par la RALD, ni par le CNL, ou très rarement, ou un peu moins peut-être.
Moins, on trouve moins d'aide.
Entre un labo de recherche du CNRS sur tel point de l'égyptologie, je pense à un livre qu'on va publier, ou le CNL qui nous a à la bonne depuis notre première publication, a été publiée avec le CNL, on prend. Voilà, c'est plus facile à la limite de faire ce qu'on fait nous. Que des éditeurs qui font de la poésie, mais de la littérature.
Moi, je pense que pour se casser la figure, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que la littérature. Non, mais c'est vrai, parce que ça peut intéresser tout le monde ou personne. Mmh. Et ça, on ne le maîtrise absolument pas. Effectivement, mais ça revient à ce que disaient les libraires hier, je crois, d'après ce que tu disais, c'est que finalement, un libraire qui a une identité très forte en sciences humaines, qui développe des rayons, qui a une image très particulière, à mon avis, aujourd'hui, prend moins de risques de faire une petite librairie généraliste qui aura la même littérature que celle qu'on voit partout ailleurs, c'est-à-dire les mêmes tables. Dans combien de librairies on rentre, on voit les mêmes tables partout. Il n'y a pas d'identité. C'est les 30 romans de la rentrée qui sont dans la presse et qu'on voit partout. Donc se battre en littérature, c'est compliqué. C'est compliqué. Imposer un auteur pas connu du tout. C'est moins difficile en littérature étrangère, ça c'est sûr. On peut publier le moindre Italien ou le moindre Américain qui aura été cordonnier, qui aura marché sur la route, pourra se faire un petit... Je caricature un peu, mais c'est quand même pas loin de vrai. Par contre, un auteur français, pas connu, premier roman aujourd'hui... Non, premier roman encore, ça va, on peut... Il y a l'accroche premier roman. Mais deuxième roman, c'est la chute totale. Le premier roman a marché, le deuxième marche plus. L'auteur part au troisième et arrive dans une grande maison d'édition. C'est le scénario classique. Il va à l'Olivier pour le troisième. Voilà. Et ça repart.
Chez Paul.
Oui.
Mais sinon, souvent, nous, en tant qu'éditeurs, on est toujours sollicités par des gens qui veulent monter des maisons d'édition. Et là, notre discours, il est vraiment noir quand même. Non, enfin, d'un point de vue, monter une maison d'édition aujourd'hui pour une personne, quoi, seule. Alors, je ferme pas complètement la porte. J'essaie d'expliquer aux gens que s'ils ont envie de faire ça, c'est peut-être qu'ils ont une passion secrète. Une passion secrète, les entomologistes, des gens qui aiment les insectes, etc. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça, on revient dans l'hyperspécialisation. Mmh. Donc ça, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Se dire, bon, je prends souvent cet exemple, en prenant celui-là, il va se dire, tiens, il y a Réaumur, il y a les 6 volumes de Réaumur sur les insectes. Je dis ça parce qu'on a publié un petit extrait sur les insectes de Réaumur. Mais c'est énorme, Réaumur. On connaît pas Réaumur Sébastopol, c'est ça. Mmh. Donc il va se dire, tiens, si je refaisais une édition comme ça, genre bouquin à la front, quoi, de Réaumur, insectes, comment je le vends? Moi, j'ai le distrait parce que... Le Graal, c'est d'être distribué nationalement avec un vrai distributeur. Sinon, vous faites quoi? Ben, c'est pas complètement fermé non plus. Peut-être qu'il peut... Déjà, le numérique va l'aider à pas trop se ruiner, à essayer de peut-être en faire que 50, 100 exemplaires. Peut-être qu'il pourra peut-être trouver un nombre d'associations aujourd'hui sur Internet qui s'occupent d'insectes, et il va finalement faire une petite repiquage sur une de couverture d'un bon de commande derrière, et finalement ça va marcher, peut-être.
Et puis après, peut-être qu'il va faire un produit numérique associé. Il va peut-être mettre. Je dis ça pour le titre. Il va mettre toutes les illustrations.
Donc on essaie d'être optimiste quand même et de ne pas leur couper l'herbe sous le pied. Alors si c'est pour dire non, mais moi je sais bien parce que je vais me spécialiser, je vais éditer des nouvelles, bon, au revoir, merci, c'est fini. Là. Mais quelqu'un qui aurait une passion comme ça, qui trouve deux, trois trucs dans le domaine public à le faire, une possibilité de vendre comme ça en direct un petit peu, et après ça peut être la première marche pour rentrer chez un distributeur une fois qu'il a 3-4 titres. Mais moi je connais des gens qui se sont auto-édités et ce sont été des vrais succès. Il y avait même, je pense, à une fille là, de Grenoble qui maintenant a des contrats chez Presse Pocket Rural, là, je ne sais pas, des collections de romans de je ne sais pas comment on dit. Merci. Ben, c'est nous qui on l'a aidé. Hein. Eh ben, en tout cas, elle a réussi son coup. Quoi, c'est-à-dire, voilà.
Mais enfin, là, je suis pas dans des éditeurs. Ce phénomène, on le retrouve aussi en librairie, parce que c'est pas étonnant. Enfin, si vous avez invité hier des libraires qui sont sauvés, entre guillemets, par les sciences humaines, ça paraît toujours surprenant. Mais finalement, ce qu'on observe également aujourd'hui, puisque, par exemple, nous, dans le domaine de l'aide à la librairie, on fait pas mal d'aide à la constitution de fonds, c'est-à-dire d'aider les libraires à ne pas avoir que de la nouveauté qui tourne en permanence sur les tables, et donc de constituer des fonds de théâtre, de poésie, d'histoire, de philo, etc. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un certain nombre de librairies. Bon, à ce moment, la librairie est quand même en difficulté. Il y a un certain nombre de librairies qui, justement, jouent ce jeu-là. Vous aviez hier Francis Chaput et Eric Fitoussi, c'est évident que...
Il a nos fonds.
Voilà, ce sont deux libraires qui ont des fonds, d'éditeurs comme Chamballon ou comme Jean Mion. Et ça, c'est clair qu'on va être dans une période, là, on le voit, hein, on voit la fermeture des chaînes d'un certain nombre de groupes de librairies. On va être dans une période où, finalement, la petite librairie généraliste, comme tu le disais, soit elle est tout à fait de quartier et elle s'en sortira parce qu'il y aura des éléments de proximité, etc. Mais la librairie généraliste telle qu'on la voit dans un chapitre ou qui s'est un peu fossilisée, qui a finalement cédé un certain nombre de baisse de fonds, de nombre de titres, etc., elle va être de plus en plus mise en difficulté, parce que pour les gens qui aiment acheter des livres, aller chez Virgin, c'était quand même pas une aventure. Il y avait quand même vraiment peu de choses à voir. Donc quelque part, il va y avoir un ajustement, évidemment, c'est un ajustement extrêmement douloureux, hein, dans le monde du livre, et notamment pour les libraires, mais il va y avoir un ajustement. Et je pense de plus en plus de solidarité, entre guillemets, de ce type, c'est-à-dire d'éditeurs qui vont continuer à faire des textes sélectionnés, pensés, conçus, choisis, étudiés, etc., pour des libraires qui vont continuer à les avoir effectivement dans leur stock, qui vont pas renvoyer les livres tous les 15 jours parce que ça marche pas, etc., pour des lecteurs qui, au bout de la chaîne, finiront tout de même par les acheter. Alors, par rapport à ça, il y a ce que disait tout à l'heure François sur le commerce en ligne, évidemment, vient brouiller quelque chose autour de ça. Mais en tout cas, nous, on remarque quand même au niveau régional, d'abord, il y a de nouveaux éditeurs constamment qui naissent. Il n'y en a pas beaucoup qui durent. C'est vrai que c'est le plus difficile. Il y a peu d'éditeurs dans le domaine des sciences humaines qui naissent. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Et beaucoup de gens sont tentés par l'aventure de l'édition littéraire. À vous entendre, ce serait plus à réfléchir de travailler. On voit bien en tout cas que ceux qui s'en sortent, qui se lancent maintenant, puisque c'est vrai que Chamballon, Jérôme Mion sont quand même vraiment des maisons symptomatiques des années 80, hein, de ce qui s'est créé, le printemps de la petite édition, la décentralisation, etc. Donc ce sont ces maisons, nous, c'est vrai que ce sont nos principaux interlocuteurs, enfin en quelque sorte. On travaille avec une centaine de maisons d'édition, entre guillemets, qui fonctionnent, qui ont des fonctionnements professionnels dans la région Rhône-Alpes, mais clairement avec une quarantaine de maisons qui ont vraiment des catalogues, une politique éditoriale affirmée, distribution, diffusion organisée, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le domaine des sciences humaines, souvent, c'est que les cartes sont un peu rebattues sur la question de la diffusion, de la distribution. Parce que on se rend compte qu'il y a des aventures qui naissent, notamment par des gens plus jeunes, hein, qui ont entre 20 et 30 ans, des aventures éditoriales, alors souvent dans des créneaux peut-être plus porteurs, avec de l'illustration parfois, mais pas forcément de la bande dessinée, ou par exemple il y a un petit éditeur qui se lance là dans le domaine... les éditions Dehors, je ne sais pas si vous les connaissez, qui ont fait 2-3 livres dans le domaine de l'écologie, par exemple. Bon. Et ce sont des gens qui utilisent, par contre, qui n'ont pas encore de diffuseur distributeur, parce qu'ils ne peuvent pas se présenter chez Harmonia Mundi, parce qu'ils n'ont pas le catalogue pour, et par contre, qui arrivent à inventer encore des chemins de diffusion à travers Internet, beaucoup, hein, et à travers, effectivement, du contact, les réseaux sociaux, et qui arrivent à diffuser de cette manière leur production. C'est vrai qu'on est dans un autre modèle que celui-ci.
C'est vrai que dans les années 80, un éditeur qui se montait pouvait aller voir un diffuseur, ouais, et presque sur projet, en tout cas c'est ce que mon collègue Patrick Beaune, qui a créé la maison, a fait. Il s'est présenté au PUF avec un projet. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Être pris, quand même, les PUF, c'était pas n'importe qui. Ils avaient pas, ils ont, ça a été le premier éditeur, Champvallon, diffusé par les PUF. Pris sur projet, hein. C'est quand même. Aujourd'hui, c'est impossible.
Impossible. Chez les libraires, moi j'y allais sans rendez-vous chez les libraires. Je faisais un tour de France, la Suisse et la Belgique, sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Je faisais un tour de France complet, 6000 km, j'y allais comme ça, au flanc, quoi, et ça marchait.
Alors je voudrais que. On va arrêter parce que vous avez une réunion à 14h et vous n'allez quand même pas partir le ventre vide. Donc,
d'ailleurs, on a une réunion avec les éditeurs.
Oui. Donc, je voudrais qu'on dise deux mots sur la vente en ligne, justement.
Voilà.
Hier, François Gès nous dit qu'à son corps défendant, il a une vente significative en ligne chez l'ennemi, pour ne pas le nommer.
Ouais.
Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous. Comment ça se passe chez vous ?
L'expérience qu'on en a, c'est assez... c'est pas clair du tout pour moi. C'est pas clair du tout. Ce que je constate, on peut que constater, ce que je constate, c'est que c'est absolument énorme.
Amazon, premier client Amazon.
De loin, mais de loin. Nous, je pense qu'il doit nous faire plus de 20% de notre chiffre d'affaires, à tout seul. C'est énorme. Énorme. D'ailleurs, il y a la journée Amazon, c'est le 10 du mois, où ça tombe, quoi, et c'est jackpot, quoi. C'est incroyable. Ça double les ventes. Le 10 du mois, c'est ce qu'ils ont vendu le mois d'avant. Alors Amazon, je crois, arrêtez-moi pour ceux qui connaissent mieux le dossier, il me semble qu'ils ont une telle puissance financière, il me semble que pour nous, ils ont tous nos livres. Nos livres, notre fonds. Ils ont notre fonds.
Oui, mais en très petite quantité.
En très petite quantité, mais il y a des livres que nous, on vend
parce qu'ils peuvent. Dès qu'il se passe quelque chose, ils n'en ont plus. Hein. Il faudrait quand même le dire aussi.
Mais, non, mais les livres qui se vendent à un par an. Nous, on en a beaucoup par an. Hein, oui. Je parle bien par an. Eh bien, je crois qu'il est disponible chez Amazon. Vous imaginez la puissance que ça représente pour eux, pour rendre service. C'est-à-dire que la personne qui veut le petit mystique du 17e qu'on a publié et qui est absolument invendable, qu'on n'a d'ailleurs pas vendu, eux, ils l'ont. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans une bibliographie, vous faites une thèse sur je ne sais qui, il vous faut ce bouquin. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Alors là, c'est là, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, soit vous prenez votre auto, vous garez, vous allez chez votre libraire qui va vous dire c'est dans 8 jours, soit vous cliquez en 2 clics de souris. Maintenant, Amazon est tellement puissant qu'il n'y a même plus besoin de s'identifier. Il y a un clic. Et ça arrive chez vous le lendemain, le surlendemain. Comment lutter?
Non, mais Jérôme, t'expliques comment... ça comme s'il connaissait pas.
Mais comment lutter? Même moi, je me parle à moi-même. Je me dis, mais comment on peut lutter, entre guillemets, contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Par ailleurs,
c'est vrai qu'il y a aussi la découverte du livre. Si on va en librairie, combien de fois je suis sorti en librairie avec un livre qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais? Parce qu'il ne l'avait pas, mais du coup, j'en ai acheté un autre. Et puis, je suis peut-être revenu. Parce que quand même, j'achète des livres à l'université. Là, j'ai travaillé. C'est à 50 mètres de mon bureau. Donc, des fois, j'achète un bouquin, j'y vais, j'achète un livre. Et puis après, j'y retourne parce que j'ai commandé. Donc, tout ça, c'est de la relation humaine, c'est de la chaleur humaine, c'est des discussions, c'est de la sympathie. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors que Amazon, c'est de l'efficacité. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut de l'efficacité? Est-ce qu'on veut, sur les PDF, pouvoir avoir des hyperliens pour aller plus vite pour faire sa thèse? Ou est-ce qu'on veut avoir un vieux bouquin qui sent bon parce qu'il était à la campagne et que vous le voyez dans votre couloir chez vous, dans votre bibliothèque. C'est tout une question de sensibilité.
Chez Chamballon, c'est la vente en ligne.
C'est pareil, hein, c'est notre premier client Amazon. Oui, oui, oui. Plus et après derrière, il y a amateurs du livre, enfin, il y a tous ces grossistes qui font aussi de la vente en ligne. Mais bon, ça, ce sont des choses. Nous, on ne fait aucune vente directe, évidemment. Alors, hein, on n'a pas de site qui fait de vente directe. On ne peut pas empêcher Amazon de vendre nos livres.
Non,
et on a besoin aussi de ces ventes-là. On peut que s'en attrister. Après, la question des négociations, des remises, toutes ces questions, effectivement, pourquoi Amazon bénéficierait de conditions commerciales si bonnes? C'est pas normal. Donc, mais ça nous échappe. C'est pas nous qui, c'est les distributeurs.
Ça, c'est... Jean-Yves Mollier qui était présent hier a une solution radicale.
Alors c'était quoi?
Les mettre en tôle. Pas dans un pot.
Ah oui, en plus il y a ça. Oui. Oui. En plus ça fait.
C'est là qu'on voit par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure sur la solidarité au sein de la filière. C'est vrai que bon, nous on est là un peu pour faire jouer les solidarités entre les différents acteurs de la chaîne du livre, mais c'est vrai que on est en ce moment sur un point de tension par rapport à ça, hein, parce que c'est vrai que c'est évident que comme dit Myriam, on va pas les empêcher de vendre nos livres, et que 20% d'une production éditoriale, c'est énorme pour un éditeur comme celui-ci. Ça veut dire que je pense que là il y a vraiment un point de tension qui va être très difficile à juguler dans les années à venir, hein, parce que les éditeurs, ils ont tout intérêt à jouer cette carte aussi au nom de la diversité, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du canal unique, et la preuve c'est que ça permet de diffuser des livres comme les vôtres, c'est-à-dire des livres qui sont
C'est assez difficile de répondre à la question qui dit, mais est-ce que le livre que j'ai vendu, parce que nous sur Amazon, quand on voit le 10 du mois, je vois tout de suite dans la première fenêtre, on a les ventes petite partie tous les jours, tout de suite je vois que c'est Amazon, c'est des livres qu'on vend jamais. Alors est-ce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des livres qu'on vend jamais, quoi. Je le vois immédiatement que c'est Amazon.
Oh, c'est pas, je suis pas d'accord. C'est pas que des livres qu'on
vend
jamais.
Non, mais il y a tous les livres. Et en plus pour nous, ceux qu'on ne vend jamais. Oui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le client le serait allé le commander en librairie, ou est-ce qu'ils l'ont trouvé sur notre site internet ou sur des références, mais qu'ils sont allés par comme ça, par ça. Voilà. On ne sait pas. Je ne sais pas.
Benoît.
Moi j'avais plein de questions, on n'aura pas de temps. Mais est-ce qu'une vente par Amazon vous rapporte moins qu'une vente en librairie?
Non, parce que c'est dealé par Harmonia Mundi, on ne sait même pas quelle remise.
On ne connaît pas les remises, ce sont des négociations directes du diffuseur avec, par contre, il me semble, alors il y a une polémique, mais je ne suis pas au clair là-dessus, mais je crois qu'Amazon bénéficie de conditions commerciales de la part des diffuseurs qui sont bonnes, et qui sont, à mon avis, trop bonnes.
Tu seras en position dominante.
Voilà. Et puis, j'entends dire, alors je ne sais pas, mais j'entends dire aussi, par des libraires, qu'Amazon serait servi par certains distributeurs en priorité. Par exemple, en période de Noël, ou quand quand un titre est proche de la rupture de stock, il semblerait qu'il y ait des distributeurs qui servent en priorité Amazon. Et ça, les libraires, ils ont à se battre là-dessus aussi. Il faudrait que les libraires, effectivement, aient des conditions meilleures que des structures comme ça, qui n'ont pas de porte à payer, rien, quoi.
Alors, Catherine, Benoît, et après c'est fini.
Ça confirme, c'est intéressant tout ce que vous dites, ça incarne vraiment toutes ces analyses d'édition de niche et aidées qui fonctionnent. Ma question, elle était par rapport aux bibliothèques. Est-ce que vous avez une idée dans vos chiffres d'affaires de combien de votre production est achetée par les bibliothèques? Je pense, par exemple, on sait qu'il y a des éditeurs jeunesse à Amazon équivalente de temps plein, de temps de production annuel de nouveautés, qui ont bien vécu dans ces années-là. Je parle de ces éditeurs des années 80-90, vous êtes représentatif, et qui ont vraiment pu exister grâce aux bibliothèques. Et est-ce que, en termes de prospective, est-ce que vous avez une idée, ne serait-ce que sur la carte Rhône-Alpes, des fonds, de la même manière qu'on sait que chez Passage, ils ont développé la poésie ou les sciences humaines, est-ce que vous avez une idée, vous, des politiques documentaires de certaines bibliothèques, et vous savez que
non,
vous pouvez travailler avec eux? Non, non. Est-ce que vous auriez une idée de ce que pourrait représenter pour vous cette enfin, d'économie présentielle et d'économie matérielle tout court, puisqu'on sait que en fait, quand les bibliothèques sont des gros, gros marchés pour les éditeurs, c'est eux qui achètent pour l'instant, qui continuent vraiment d'acheter énormément et en sciences humaines et en littérature.
En passant par des libraires, alors. En passant par des librairies.
Marché, hein. Oui. Mais certains éditeurs,
du coup, nous, on ne sait pas.
Là, et si on était dans un monde idéal, est-ce que vous auriez des idées de comment être plus en contact, finalement, avec ces espaces, qui sont des espaces extraordinaires, hein, de rencontres, qui sont aussi qui forment aussi la clientèle des librairies, puisqu'on sait qu'il y a vraiment des passerelles entre bibliothèques.
Moi, je pense qu'il y aurait du travail.
Il y a un travail que vous pourriez, je pense, à l'éditeur.
On a des expériences.
Comment je pourrais faire pour indexer mes ouvrages, pour faire des notices et pour pouvoir mettre un indice, dire ouais, bon, des choses que les bibliothécaires connaissent bien. Comment je pourrais faire pour mieux connaître la politique des éditeurs? Et à l'inverse, des éditeurs qui disent, mais finalement, les bibliothèques, on ne sait pas trop, on ne connaît pas leur politique documentaire, on ne connaît pas leurs besoins, on ne connaît pas leurs...
On n'a pas beaucoup, enfin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de demandes de bibliothécaires. Moi, de temps en temps, j'ai une bibliothécaire qui me demande une revue de presse ou qui a une demande précise pour une animation. Mais je trouve que c'est quand même très, très rare. C'est extrêmement rare. On n'a aucune visibilité en termes de chiffres sur les achats, parce que ça passe par des libraires, et donc on ne peut pas savoir. Ça rentre dans le chiffre global du libraire, donc on ne sait pas ce qui va... On ne sait pas ce qu'il y a dans les fonds des bibliothèques, nous. Non, non, non. Donc finalement, il y a plein de travail qui pourrait être fait en direct. Par exemple... Moi, j'ai un fichier où j'informe des libraires de certaines choses, mais je n'ai jamais les adresses des bibliothécaires, les adresses électroniques. Je pourrais très bien avoir un fichier d'adresses électroniques de bibliothécaires. Voilà une chose, tiens, qu'on pourrait imaginer d'ailleurs, que peut-être que la RALD aussi pourrait nous aider. Nous donner, on n'achète pas de fichiers, on n'a pas les moyens d'acheter des fichiers, mais on aurait, je ne sais pas, le fichier de toutes les bibliothèques de Rhône-Alpes avec le nom de la personne. Et on pourrait, moi j'envoie des programmes électroniques deux fois par an. Si on organise quelque chose dans une librairie à Lyon, en Rhône-Alpes.
Je le reçois.
Tu reçois ?
Oui.
Voilà, ben, j'imagine que je pourrais mettre toutes les bibliothécaires.
On a eu une expérience d'être diffusé directement aux bibliothèques il y a 15 ans, ça. C'était incroyable parce que ça marchait.
Ah oui, oui. Alors là, oui. Là, on le savait. Là, on le savait.
On s'est fait escroquer. Moi, je me suis fait escroquer quatre fois de suite. Enfin, trois fois de suite par des gens qui, après, payaient pas, quoi. Enfin, l'intermédiaire payait pas. Je parle pas des bibliothèques. C'est-à-dire qu'ils prenaient un petit pourcentage. Ils plaçaient les livres. C'était en direct, quoi, entre l'éditeur, puis tout ça a disparu.
Alors là, il y avait un vrai travail.
C'était un vrai carton qu'on faisait.
Ouais.
C'était incroyable ce qui nous passait.
Incroyable. Oui. Oui, tout à fait. Oui.
Benoît.
Moi, j'avais une question plus large. En plus, c'était. En fait, il me semble qu'il y a deux points que vous avez évoqués sur le numérique qui autorisait des éditions, des impressions avec des tirages très limités et le rapprochement que ça faisait de fait avec des éditions à compte d'auteur. Vous évoquez le cas du Salon du Livre. Par rapport à la librairie, j'ai l'impression qu'il y a la même problématique que ce que vous disiez sur le fait qu'il y a un contact humain avec la librairie par rapport à Amazon et l'efficacité. Il me semble que sur ces deux fonctions, éditoriale et de distribution, la valeur ajoutée apportée par les professionnels, que sont les libraires et les éditeurs, elle n'est pas forcément facilement perceptible. Ce que je veux dire par là, c'est que si un usager non professionnel se retrouve avec sur la table et des livres et un ouvrage de chez vous, comment est-ce qu'on peut faire pour lui expliquer qu'il y en a un qui a été publié à compte d'auteur? L'autre a été travaillé pendant 3 ans par
un éditeur.
On peut pas.
Bon, ça se voit quand même.
Oui,
je vous trouve un peu sévère.
Non,
ça se voit. Un livre à compte d'auteur.
Parce que même avec au niveau avant, ça se voit.
Non,
mais
les deux personnes qui vont à la
demande, ça se voit sur la maquette, sur le truc de l'appareil.
Non, non. Un étudiant à l'université, est-ce que... Comment lui expliquer ?
Mais l'étudiant, normalement, je suis désolé, mais quand on était étudiant, il y avait de la valeur dans le nom de l'éditeur. Acheter un bouquin au PUF, chez
oui, mais alors
Libard,
c'est, je suis pas
au seuil,
à mon avis, c'est plus le cas.
Le ci, le ça, le machin. Donc l'habitude d'achat de livres de la part de l'étudiant faisait que, si c'était chez Chou ou je sais pas quoi, on faisait un peu attention. Faisait gaffe, c'était chez Chou ou alors chez Très Daniel. Mais pourtant, il y a de très bonnes choses chez Très Daniel. Mais au bout d'un moment, quand on est lecteur, on sait, on connaît les éditeurs.
On connaît les collections,
désolé,
au moins
mais on, connaît
on se repère.
Si on est éditeur, on n'a qu'à regarder nos propres bibliothèques, pour ceux qui en ont encore chez eux, et ben, on voit les éditeurs, on les connaît. Et non, oui. je réponds à côté.
Tu as raison, Benoît, c'est une question. Tu as raison, mais c'est une question d'acculturation. C'est une question de curiosité intellectuelle, c'est une question de connaissance. Ça a toujours existé.
Je pense qu'il y a un enjeu sur le fait d'expliquer, et je pense qu'il y a un enjeu du côté des éditeurs pour expliquer, pas à professeur, mais la fonction éditoriale qui est évoquée à l'intervention, c'est bien cette problématique-là. Si les éditeurs ne sont pas perçus comme étant les acteurs qui peuvent remplir cette fonction éditoriale, d'autres le.
C'est le rapport au savoir qu'ont les étudiants ou les élèves quand ils ouvrent leur ordinateur. Ils vont chercher une information. Bon, il faut bien qu'ils apprennent qu'il y a des filtres, comme tu le disais tout à l'heure, des filtres qualitatifs, et que tout ne se vaut pas. C'est bien la même chose, je veux dire, un livre numérique ou un livre papier, il faut bien qu'il y ait cette démarche effectivement de construction, d'apprentissage, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un éditeur, qu'est-ce que c'est qu'une collection, et qu'il y a un contexte, et qu'un livre, il n'est pas tout seul, il est là dans un contexte, et que si un éditeur a travaillé pour l'imprimer, pour l'éditer, c'est que ça a une cohérence dans un ensemble. Donc il y a la question de la cohérence de l'ensemble. Et j'imagine qu'un jeune qui cherche une information sur Google, il va très vite repérer aussi qu'il y a quand même des sites qui sont plus fiables que d'autres, qu'il y a des sites qui trient l'information, qui l'organisent. C'est un peu la même chose. Normalement, il faut les.
Peut-être compter sur les enseignants aussi pour essayer.
Pas désespérer non plus.
Les bibliothécaires
sont là pour ça.
Déjà, aller en bibliothèque, c'est déjà un acte.
Moi, j'en vois souvent des auteurs en bibliothèque, dit. Par exemple, des auteurs, des gens qui ont un manuscrit à placer, qui téléphonent. Ah, j'écris de la poésie, comme tout le monde écrit de la poésie, Alors, j'essaye, quand je ne suis pas énervée et que j'ai un petit peu de temps, je prends du temps, parce que c'est toujours quand même un peu pathétique. Non, j'en lis pas. Parce que, il y a plein de gens qui écrivent de la poésie, mais ils n'en lisent pas, ils ne connaissent aucun éditeur, ils n'ont pas de livre de poésie chez eux, donc c'est quand même, déjà, il faut partir de loin. Donc, j'explique, et je leur dis, quand je leur dis, vous écrivez de la poésie, c'est que vous en lisez. Après, je leur dis, allez en bibliothèque. Excusez-moi. Je leur dis, vous allez en bibliothèque, vous regardez un rayon de poésie, vous demandez qu'on vous explique. Mais il y a toute cette dimension pédagogique que vous devez avoir à assumer en permanence.
Mais c'est vrai qu'il y a un vrai. Je dirais à la fois, c'est un peu les fondamentaux. J'imagine qu'ici, particulièrement, vous devez être aussi attentif à ça. Je pense que c'est aussi important qu'il y ait d'ailleurs des éditeurs qui viennent ici pour aussi échanger, montrer ce que c'est que le travail d'un éditeur, etc. Enfin,
faut nous inviter.
C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu parce qu'en plus, ce qu'on voit apparaître au bout de cette chaîne-là, on voit apparaître en ce moment des maisons d'édition online, sur Internet, qui publient énormément. Dans quelles conditions, c'est assez obscur. Et notamment, moi j'ai eu l'exemple il y a très peu de temps à l'agence où quelqu'un s'est présenté en disant je suis éditeur depuis un an et demi et on a publié 1700 auteurs.
je vois de qui tu parles.
Voilà. Et
oui, on en reparlera.
J'ai été quand même pour un éditeur qui se présente ainsi, un jeune éditeur. Donc il faut pas angéliser les petits éditeurs non plus. Nous on est très attentif à ça. Il y en a qui font un travail beaucoup moins soigné. Et puis surtout, alors quand quelqu'un se présente comme ça, un éditeur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire sur les filtres? Qu'est-ce que ça veut dire sur la sélection? Qu'est-ce que ça veut dire sur la publication? Donc là, on rentre dans des nouveaux phénomènes d'édition qui sont aussi extrêmement pernicieux. Et qui vont être difficiles à suivre parce que s'abrite derrière ça ce qui va à l'encontre de cette vision un peu verticale, c'est-à-dire d'un éditeur qui sélectionne son texte. Donc là, s'instille une nouvelle logique qui est celle de la communauté, c'est-à-dire que les auteurs sont les auteurs défendus et choisis par la communauté des lecteurs sur tel site. Hein, là, c'est en l'occurrence, pardon, l'argument, c'est celui-ci.
Bon, oui, c'est horizontal.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension démocratique, de co-construction, tout ce qu'on entend de principe à la noix, hein, c'est toutes ces dernières années. Et là, on est sur des phénomènes où on a, je dirais, nous, à la RAL, on est sollicité, je ne sais pas, 10 fois par semaine par des gens qui veulent publier un livre. Mais que dis-je 10 fois par semaine? Probablement 10 fois chacun par semaine, parce que moi j'en ai 10 en ligne et mes collègues aussi. Donc, et c'est vrai que là, l'auto-édition, nous, on, entre guillemets, je ne devrais pas le dire, mais on prône l'auto-édition. C'est-à-dire, on dit aux auteurs, bon, vous n'avez pas trouvé d'éditeur, vous n'avez pas d'éditeur. Au lieu de vous faire arnaquer chez un La Pensée Universelle à 1500 euros la production, faites tirer vous-même 200 exemplaires. Bon, après, ce que vous en ferez, j'en sais pas trop rien, parce que vous pourrez pas faire de facture, etc. Mais au moins, vous payerez quelques centaines d'euros. Oui. Et maintenant, on va être obligé d'avoir un nouveau discours par rapport à ces éditeurs qui s'installent sur le net et qui font du livre électronique qui n'en est pas, enfin simplement des livres numérisés au format, et qui vont, sous prétexte d'une collectivité, d'une communauté de partage, proposer pléthore de livres. Et là, cet éditeur, c'est un exemple qui est dans la région, et voilà, ça pose de vraies questions, y compris pour nous, qui sommes...
Tout n'est pas mauvais dans l'auto-édition, et c'est vrai qu'il faut dire aux gens, mais il faut bien expliquer. Ouais. Parce que la chaîne du livre, ça vous la connaissez par cœur, le distributeur, l'histoire des filtres, etc. Après, maintenant, moi, si quelqu'un veut faire 50 bouquins parce qu'il a une réunion de famille ou c'est une très grande famille, et puis il va en donner à ce moment-là, mais c'est tout à fait respectable. La qualité littéraire, chacun jugera dans son entourage proche, mais ça déborde pas. Voilà, c'est ça, après tout, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi, s'il veut faire les avances et sans photocopie, pourquoi lui interdire de faire un bouquin? C'est vrai qu'on peut le faire, John, mais c'est pas la peine, comme tu le dis, d'aller se faire arnaquer par des gens. Parce que les 10 livres, je crois que leur politique, ils feront payer personne. Alors ça, c'est génial, ils peuvent répondre, mais non, on leur fait pas payer. Sauf qu'ils ont une maquette de base qui est toujours la même, donc si vous voulez de la quadrille dessus, ça commence à être payé, puis en plus, vous payez vos propres exemplaires. Comme il vous en faut toujours 50 ou 60 pour les copains, les cousins, les voisins, eh ben déjà, ils en ont vendu 60, et eux, maintenant, comme on peut tirer à rien du tout, 10 exemplaires, ils gagnent de l'argent là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils peuvent dire, on ne fait pas payer les auteurs. C'est que des options. Ils cochent des options dans le bazar. Voilà.